Il s'était dirigé vers un grand triptyque de Van der Weyden qui représentait les rois mages. Il replia le volet de droite et découvrit ainsi une petite porte dont il saisit la poignée. « Bonne chasse, Ganimard, et bien des choses chez toi !» Il bondit en arrière. « Ah, canaille, en plein cœur! Tu as donc pris des leçons ? Fichu le roi mage, en plein cœur, fracassé comme une pipe à la foire !»«
En toi, Lupin !»
hurla Ganimard, dont le revolver surgissait hors du panneau brisé et dont on apercevait les yeux brillants.
« Rends-toi, Lupin ! Et la garde, est-ce qu'elle se rend ? Si tu bouges, je te brûle !
Allons donc ! Tu ne peux pas m'avoir d'ici !»
De fait, Lupin s'était éloigné, et si Ganimard, par la brèche pratiquée dans la porte, pouvait tirer droit devant lui, il ne pouvait tirer ni surtout viser du côté où se trouvait Lupin. La situation de celui-ci n'en était pas moins terrible, puisque l'issue sur laquelle il comptait, la petite porte du triptyque, s'ouvrait en face de Ganimard. Essayer de s'enfuir, c'était s'exposer au feu du policier. Et il restait 5 balles dans le revolver.
« Fichtre, mes actions sont en baisse. Ah, c'est bien fait, mon vieux Lupin. T'as voulu avoir une dernière sensation et t'as trop tiré sur la corde. Fallait pas t'en bavarder. »
Il s'aplatit contre le mur. Sous l'effort des hommes, un pan du panneau encore avait cédé, et Ganimard était plus à l'aise. 3 mètres, pas davantage, séparaient les 2 adversaires. Mais une vitrine en bois doré protégeait Lupin.
« À moi donc, Beautrelet !»
s'écria le vieux policier qui grinçait de rage.
« Tire donc dessus, au lieu de reluquer comme ça !»
Isidore, en effet, n'avait pas remué, spectateur passionné, mais indécis jusque-là. De toutes ses forces, il eût voulu se mêler à la lutte et abattre la proie qu'il tenait à sa merci. Un sentiment obscur l'en empêchait. L'appel de Ganimard le secoua. Sa main se crispa à la crosse de son revolver. « Si je prends parti, Lupin est perdu. Et j'en ai le droit. C'est mon devoir. » Leurs yeux se rencontrèrent. Ceux de Lupin étaient calmes, attentifs, presque curieux, comme si, dans l'effroyable danger qui le menaçait, il ne se fût intéressé qu'au problème moral qui étreignait le jeune homme. Isidore se déciderait-il à donner le coup de grâce à l'ennemi vaincu? La porte craqua de haut en bas.
« À moi, Beautrelet, nous le tenons !»
Isidore leva son revolver. Ce qui se passa fut si rapide qu'il n'en eut pour ainsi dire conscience que par la suite. Il vit Lupin se baisser, courir le long du mur, raser la porte au-dessous de l'arme même que brandissait vainement Ganimard, et il se sentit soudain, lui, Beautrelet, projeté à terre, ramassé aussitôt et soulevé par une force invincible. Lupin le tenait en l'air, comme un bouclier vivant, derrière lequel il se cachait.
« 10 contre 1 que je m'échappe, Ganimard ! Avec Lupin, vois-tu, il y a toujours de la ressource !»
Il avait reculé rapidement vers le triptyque. Tenant d'une main Beautrelet plaqué contre sa poitrine, de l'autre, il dégagea l'issue et referma la petite porte. Il était sauvé. Tout de suite, un escalier s'offrit à eux, qui descendait brusquement.
« Allons !» dit Lupin en poussant Beautrelet devant lui. « L'armée de terre est battue. Occupons-nous de la flotte française. Après Waterloo, Trafalgar. » T'en auras pour ton argent, hein, petit ?
Ah, que c'est drôle ! Et les voilà qui cognent le triptyque maintenant !
Trop tard, les enfants ! Mais file donc, Beautrelet !
L'escalier, creusé dans la paroi de l'aiguille, dans son écorce même, tournait tout autour de la pyramide, l'encerclant comme la spirale d'un toboggan. L'un pressant l'autre, il dégringolait les marches 2 par 2, 3 par 3. De place en place, un jet de lumière giclait à travers une fissure, et Beautrelet emportait la vision des barques de pêche qui évoluaient à quelques dizaines de brasses et du torpilleur noir. Il descendait, Isidore silencieux, Lupin toujours exubérant.
Je voudrais bien savoir ce que fait Ganimard. Dégringole-t-il les autres escaliers pour me barrer l'entrée du tunnel? Non, il n'est pas si bête. Il aura laissé là 4 hommes, et 4 hommes suffisent. Il s'arrêta.
Écoute, il crie là-haut.
C'est ça. Ils auront ouvert la fenêtre, et ils appellent leur flotte.
Regarde, on se démène sur les barques. On échange des signaux.
Le torpilleur bouge.
Brave torpilleur. Je te reconnais, tu viens du Havre.
Canonnier, à vos postes.
Bigre, voilà le commandant.
Bonjour, Duguay Trouin.
Il passa son bras par une fenêtre et agita son mouchoir. Puis il se remit en marche.
La flotte ennemie fait force de rame. L'abordage est imminent.
Dieu que je m'amuse.
Ils perçurent des bruits de voix au-dessous d'eux. À ce moment, ils approchaient du niveau de la mer et ils débouchèrent presque aussitôt dans une vaste grotte où 2 lanternes allaient et venaient parmi l'obscurité. Une ombre surgit et une femme se jeta au cou de Lupin.
« Vite, vite ! J'étais inquiète. Qu'est-ce que vous faisiez ? Mais vous n'êtes pas seul ?»
Lupin la rassura.
« C'est notre ami Beautrelet. Figure-toi que notre ami Beautrelet a eu la délicatesse...
Mais je te raconterai cela. Nous n'avons pas le temps. Charolais, tu es là ? Ah, bien. Le bateau ?
Le bateau est prêt.
Allume !
Beautrelet, dont le regard s'habituait peu à peu aux demi-ténèbres, finit par se rendre compte qu'il se trouvait sur une sorte de quai au bord de l'eau et que devant eux flottait un canot.
Un canot automobile ?
Dit Lupin, complétant les observations de Beautrelet.
« Hein ? Tout ça t'épate, mon vieil Isidore.
Tu ne comprends pas ?
Comme l'eau que tu vois n'est autre que l'eau de la mer qui s'infiltre à chaque marée dans cette excavation, il en résulte que j'ai une petite rade invisible et sûre.
Mais fermée. Personne ne peut y entrer et personne en sortir.
Si, moi. Et je vais te le prouver. »
Il commença par conduire Raymonde, puis revint chercher Beautrelet. Celui-ci hésita.
« Tu as peur ?»«
De quoi ?»«
D'être coulé à fond par le torpilleur ?»«
Non. »«
Alors tu te demandes si ton devoir n'est pas de rester côté Ganimard, justice, société, morale, au lieu d'aller côté Lupin, honte, infamie, déshonneur ?»«
Précisément. »
Par malheur, mon petit, tu n'as pas le choix. Pour l'instant, il faut qu'on nous croie morts tous les deux et qu'on me fiche la paix que l'on doit à un futur honnête homme. Plus tard, quand je t'aurai rendu ta liberté, tu parleras à ta guise. Je n'aurai plus rien à craindre.
À la manière dont Lupin lui étreignit le bras, Beautrelet sentit que toute résistance était inutile.
Et puis, pourquoi résister ?
N'avait-il pas le droit de s'abandonner à la sympathie irrésistible que, malgré tout, cet homme lui inspirait ? Ce sentiment fut si net en lui qu'il eut envie de dire à Lupin
« Écoutez, vous courez un autre danger plus grave. Sholmès est sur vos traces. »«
Allons, viens !»
lui dit Lupin avant qu'il se fût résolu à parler. Il obéit et se laissa mener jusqu'au bateau, dont la forme lui parut singulière et l'aspect tout à fait imprévu. Une fois sur le pont, ils descendirent les degrés d'un petit escalier abrupt, d'une échelle plutôt, qui était accrochée à une trappe, laquelle trappe se referma sur eux. Au bas de l'échelle, il y avait, vivement éclairé par une lampe, un réduit de dimension très exiguë où se trouvait déjà Raymonde, et où ils eurent exactement la place de s'asseoir tous les trois. Lupin décrocha un cornet acoustique et ordonna
« En route, Charolais !»
Isidore eut l'impression désagréable que l'on éprouve à descendre dans un ascenseur. L'impression du sol, de la terre qui se dérobe sous vous. L'impression du vide. Cette fois, c'était l'eau qui se dérobait. Et du vide s'entr'ouvrait, lentement.
« Hein ? Nous coulons ?
Rassure-toi !»
Le temps de passer de la grotte supérieure où nous sommes à une petite grotte située tout en bas, à demi ouverte à la mer, et où l'on peut entrer à marée basse. Tous les ramasseux de coquillages la connaissent.
Ah ! 10 secondes d'arrêt. Nous passons
et le passage est étroit, juste la grandeur du sous-marin. Mais comment se fait-il que les pêcheurs qui entrent dans la grotte d'en bas ne sachent pas qu'elle est percée en haut et communiquent avec une autre grotte d'où part un escalier qui traverse l'aiguille? La vérité est à la disposition du premier venu.
Erreur, Beautrelet. La voûte de la petite grotte publique est fermée à marée basse par un plafond mobile, couleur de roche, que la mer en montant déplace et élève avec elle, et que la mer en redescendant rapplique hermétiquement sur la petite grotte. C'est pourquoi, à marée haute, je puis passer.
Hein? C'est ingénieux.
Une idée à Bibi, ça.
Et il est vrai que ni César, ni Louis XIV, bref, qu'aucun de mes aïeux ne pouvait l'avoir, puisqu'il ne jouissait pas du sous-marin. Il se contentait de l'escalier qui descendait alors jusqu'à la petite grotte du bas. Moi, j'ai supprimé les dernières marches et imaginé ce plafond mobile. Un cadeau que je fais à la France. Raymonde, ma chérie, éteignez la lampe qui est à côté de vous. Nous n'en avons plus besoin. Au contraire. En effet, une clarté pâle, qui semblait la couleur même de l'eau, les avait accueillis au sortir de la grotte et pénétrait dans la cabine par les deux hublots dont elle était munie et par une grosse calotte de verre qui dépassait le plancher du pont et permettait d'inspecter les couches supérieures de la mer. Et tout de suite, une ombre glissa au-dessus d'eux.
L'attaque va se produire. La flotte ennemie cerne l'aiguille. Mais si creuse que soit cette aiguille, je me demande comment ils vont y pénétrer.
Il prit le cornet acoustique.
Ne quittons pas les fonds, Charolais.
Où allons-nous?
Mais je te l'ai dit, à Port-Lupin. Et à toute vitesse, hein? Il faut qu'il y ait de l'eau pour aborder. Nous avons une dame avec nous.
Il rasait la plaine de rocs. Les algues soulevées se dressaient comme une lourde végétation noire, et les courants profonds les faisaient onduler gracieusement, se détendre et s'allonger comme des chevelures qui flottent. Une ombre encore, plus longue.
C'est le torpilleur. Le canon va donner de la voix. Que va faire du Guétroin? Bombarder l'aiguille? Ce que nous perdons, Beautrelet, en n'assistant pas à la rencontre de du Guétroin et de Ganimard. La réunion des forces terrestres et des forces navales.
Hé, hey, Charolais, nous dormons?
On filait vite, cependant. Les champs de sable avaient succédé aux rochers. Puis ils virent presque aussitôt d'autres rochers qui marquaient la pointe droite d'Étretat, la porte d'Amont. Des poissons s'enfuyaient à leur approche. L'un d'eux, plus hardi, s'approcha au hublot. Et il les regardait de ses gros yeux immobiles et fixes.
« À la bonne heure, nous marchons.
Que dis-tu de ma coquille de noix, Beautrelet?
Pas mauvaise, n'est-ce pas?
Tu te rappelles l'aventure du 7 de cœur, la fin misérable de l'ingénieur Lacombe, et comment, après avoir puni ses meurtriers, j'ai offert à l'État ses papiers et ses plans pour la construction d'un nouveau sous-marin? Encore un cadeau à la France.
Eh bien, parmi ces plans, j'avais gardé ceux d'un canot automobile submersible. Et voilà comment tu as l'honneur de naviguer en ma compagnie.